Les marchandes de sable, il était une fée. Ondine, épisode 4. Le voyage jusqu'à Rijksstetten dure longtemps, car Huldebrand a décidé d'éviter les cours d'eau et les lacs tant qu'il ne serait pas parvenu au cœur de ces chères montagnes. Ondine et lui vivent ces journées comme une nouvelle lune de miel, sous le regard envieux de Bertalda. Le lendemain de leur arrivée au château, les choses changent. Ondine ne voit plus guère Huldebrand, très occupé à percevoir l'argent des impôts, à administrer ses domaines et à entraîner ses soldats. Elle endosse péniblement son rôle d'épouse, de seigneur, et remercie le sort de la présence de Bertalda, qui maîtrise parfaitement l'organisation du château, calme les rivalités entre les serviteurs et suit les chasses sans défaillir. Épuisée par tant de contraintes, Ondine aime se réfugier en haut des remparts pour admirer l'automne sur les montagnes. Un jour qu'elle soupire de désespoir et se lamente sur la difficulté à être châtelaine, un domestique qu'elle ne connaît pas vient s'incliner devant elle. Sa haute taille et la pâleur de son visage l'alertent. En un éclair, elle repousse Kelborn vers l'escalier. À voix basse, elle lui ordonne de ne plus jamais paraître devant elle. L'esprit des eaux s'enfuit dans un ricanement sinistre. C'est alors que Bertalda fait son apparition sur le chemin de ronde. Voyant Ondine se débattre au milieu de la brume en parlant toute seule, elle se précipite pour la réconforter sans remarquer les traces humides qui traversent la cour jusqu'à la margelle du puits. Ondine ne supporte plus de mentir. Elle a besoin de parler de ses tourments à son amie. Elle raconte alors son histoire à Bertalda, sans rien lui cacher des coutumes des Ondins, ni de sa vie jusqu'à son mariage avec Huldebrand. Mais elle n'ose tout de même pas lui parler de Kelborn. Bertalda comprend ainsi que son beau chevalier lui a préféré une fille des eaux et que les légendes entendues dans son enfance sont vraies. À la fin de la journée, Huldebrand trouve les deux jeunes femmes en grande discussion près de la cheminée. Ondine s'imagine que Bertalda a accepté la vérité et que pour elle vivre au cœur d'une histoire fabuleuse et merveilleuse. En réalité, Bertalda ne peut s'empêcher de ressentir un frisson d'angoisse en pensant à ce qui se passe sous la surface des eaux et à l'étrange nature de la belle Ondine. Le temps passe, la vie semble reprendre un cours normal. Pourtant, Ondine sent qu'Huldebrand s'éloigne d'elle imperceptiblement. Il passe de plus en plus de temps auprès de Bertalda, chevauchant, dansant, riant avec elle. Il pense fréquemment à l'exceptionnelle épouse qu'elle aurait été pour lui, quand l'impatience le prend devant les maladresses d'Ondine. Au début, Bertalda s'efforce de maintenir l'illusion que son amie est bien la maîtresse du château. Mais peu à peu, elle s'impose à sa place. Huldebrand proclame à qui veut l'entendre la reconnaissance qu'il éprouve pour celle qui tient sa maison, accueille ses amis, organise fêtes et tournois, établit les comptes des impôts dus au seigneur sans jamais faire d'erreur. Ondine approuve avec un sourire reconnaissant tout ce que fait Bertalda et joint ses compliments à ceux d'Huldebrand. Mais quand Bertalda maltraite les serviteurs, la bienveillante Ondine fait place à la dame de Rijksstetten et s'affronte courageusement à la duchesse. Tous les gens du château adorent leur jeune maîtresse à la voix douce et au cœur tendre. Ils compatissent au chagrin qu'elle croit dissimuler et certains n'hésitent pas à critiquer leur maître. Le soir, autour du puits, les bavardages vont bon train. C'est à cette même période que Rijksstetten devient le cadre de phénomènes surnaturels tout à fait déplaisants. Des spectres traversent les couloirs, l'eau du puits ne reste pas en place, débordant quand on s'y attend le moins ou se retirant dans les profondeurs de la terre. Il arrive que le seau n'en remonte pas ou que l'eau, devenue noirâtre, dégage une puanteur insoutenable. Plus pénibles encore sont les apparitions de Kelborn qui s'obstine à harceler Bertalda. Bientôt, la jeune femme annonce son intention de rentrer à la cour de son père. Quelques jours de paix s'ensuivent, pendant lesquelles Hildebrand redouble de tendres attentions vers la duchesse. Ondine fait de même, pour le simple plaisir de s'attirer les sourires reconnaissants de son époux. Mais ceux-ci sont devenus bien rares. Le grand amour d'Hildebrand pour Ondine s'est éteint, tué par leur profonde différence, cette différence à laquelle il ne cesse de penser. Et plus Ondine s'efforce de se comporter comme une noble dame, plus Hildebrand ressent ses efforts et s'éloigne d'elle. Profitant du calme passager de Kelborn, Ondine rassemble ses serviteurs, à qui elle ordonne d'aller prendre dans la carrière une pierre assez large pour fermer le puits, leur recommandant de la choisir aussi lourde que possible. Les hommes s'empressent de lui obéir. La servante de Bertalda, descendue chercher de l'eau pour le bain de sa maîtresse, les trouve prêts à hisser la dalle sur la margelle et prévient la duchesse. Celle-ci, furieuse de n'avoir pas été consultée, se précipite dans la cour. « Laissez cette pierre sur le sol et écartez-vous pour que ma servante puisse son eau, » exigea-t-elle sèchement. « Notre-Dame nous a donné cet ordre et nous devons lui obéir. » « Votre maîtresse ne donne que des ordres ridicules ou inutiles. Ce puits est le seul point d'eau du château et le fermer nous obligerait à aller chercher de l'eau au fin fond de la vallée. » La voix d'Ondine s'élève, claire et assurée. « Je sais tout cela, et ces braves gens le savent aussi, mais mieux vaut ce petit souci que le grand malheur qui adviendra si le puits reste ouvert. » Bertalda n'en croit pas ses oreilles. Cette Ondine venue du fond des eaux, cette fragile créature si peu digne d'être l'épouse du magnifique Hildebrand, ose s'opposer à cette décision. Elle poursuit d'un ton plus cassant encore. « Rentre dans tes appartements, Ondine, et va chanter quelques mélodies pour les oiseaux ou les nuages. Laisse-moi conduire les affaires de mon château. Quant à vous, bande de paresseux, » ajoute-t-elle en se tournant vers les domestiques, « jetez cette dalle sur le sol. » « Ne bougez pas, mes amis, » réplique Ondine. « Le seul maître du château est mon époux, Hildebrand. Il décidera de ce qu'il convient de faire dès son retour. » « Je suis sûre de sa décision, » lança Bertalda avec un sourire triomphant. Puis elle quitte la cour dans un envol de jupons empesés. Quand Hildebrand rentre au château, les deux jeunes femmes sont là pour l'accueillir. Ondine, pâle et résolue, Bertalda, savourant à l'avance son triomphe. L'exposé n'effet ne dure que quelques instants. Sentant le regard sévère que lui adresse déjà son époux, Ondine commence à plaider sa cause. « Monseigneur, ai-je jamais causé le moindre mal à ce château et à ses habitants? Ne peux-tu croire que j'ai des raisons d'agir comme je le fais? » « Dis-les-moi alors et sois convaincante. Je ne crois pas que tu saches mieux que Bertalda ce qui convient à la conduite de cette maison. Je peux tout expliquer, mais à toi seule et dans le secret de notre chambre. » Bertalda voudrait s'imposer, mais Hildebrand, attendri par le courage dont fait preuve la pauvre Ondine, entraîne son épouse à l'intérieur du château. « Je t'ai déjà parlé de Kelborn et de sa façon de veiller sur moi. Il pense, à tort j'en suis sûre, que tu accordes plus de faveur à Bertalda qu'à moi. C'est ce qui cause sa colère et l'incite à nous jouer tous ses mauvais tours depuis quelque temps. » « Tu disais qu'ici il ne pourrait nous nuire. Il se sera réconcilié avec l'esprit de notre source ou qu'il l'aura menacé. En tout cas, le pied constitue son seul accès au château et c'est pour cela qu'il faut le fermer. » « Je regrette le souci que cela va occasionner pour nous tous, mais votre sécurité, surtout celle de Bertalda, ainsi que notre bonheur sont à ce prix. » « Puisque nous parlons de Kelborn, laisse-moi de nouveau te mettre en garde. Un homme et une femme qui s'aiment peuvent passer par des moments de colère ou de chagrin sans que leur amour en soit affecté. Mais cela, mon oncle ne peut le comprendre. Alors je t'en prie, chaque fois que nous serons près de l'eau, ne te mets pas en colère contre moi. Ne donne pas l'impression que tu me délaisses. Si ma famille venait à penser que tu ne m'aimes plus, elle me reprendrait aussitôt auprès d'elle et je te perdrai à jamais et il y adviendrait pire encore si elle me forçait. » Coupant court à ses supplications, Hildebrand interrompit Ondine par un baiser. La honte l'envahit devant la générosité de son épouse qui se soucie de tous et même de sa rivale. Pris d'un regain de tendresse pour elle, il l'embrasse en lui jurant de suivre ses conseils. Quant à Bertalda, elle doit maintenant subir les reproches d'Hildebrand et assister au triomphe de sa rivale. En hissant la pierre sur la margelle, les domestiques font remarquer que l'eau remonte dans le puits et gronde sourdement. Ondine s'approche et promène ses mains nues sur la pierre lisse en murmurant tout bas. Lorsqu'elle se retire, le silence règne et la dalle est gravée de signes inconnus. Hildebrand et Ondine regagnent leur chambre où ils restent en entendre tête à tête jusqu'à l'heure du repas. Un valet vient alors leur remettre une lettre cachetée contenant ces mots. « J'ai compris que ce soir je n'avais pas ma place ici. Je vous laisse à votre bonheur. » Il leur précise que la duchesse Bertalda est partie depuis environ 2 heures à pied en direction de la vallée des ombres. Il faut aller à sa recherche avant la nuit noire. Faites seller mon meilleur cheval, ordonne Hildebrand en s'élançant vers les écuries. Ne t'en va pas seul dans la nuit vers les ombres. La vallée cache des dangers que tu ne peux soupçonner, le prévient Ondine. La fin de la phrase résonne dans la solitude de la somptueuse salle dorée. Hildebrand est parti sans l'écouter. Le jeune chevalier ne peut s'empêcher de frémir en pénétrant dans la vallée des ombres. En taille profonde entre deux pics escarpés, la vallée ne reçoit pratiquement jamais les rayons du soleil. Des rochers acérés y succèdent aux éboulis, de noirs sapins se sont élevés d'un seul élan à des hauteurs vertigineuses, des mousses et des fougères verdâtres tapissent le sol. Ni le chant des oiseaux, ni le brame des cerfs ne se font entendre. Seuls des serpents et des insectes griffus rampent sur le sol. Le long du torrent rageur qui a creusé la vallée, les hommes ont tracé un chemin que suit Hildebrand. Tout à coup, il aperçoit, plus haut sur le versant, une forme blanche allongée sous les sapins. Il veut la rejoindre, mais son cheval refuse et se cabre à plusieurs reprises, désarçonnant son cavalier. Hildebrand se met à courir vers la jeune femme évanouie. Il se presse car la nuit arrive et avec elle, des rafales de vent annonciatrices d'un terrible orage de montagne. Alors que le jeune homme croit se pencher sur le beau visage de Bertalda, une figure livide aux yeux brûlants de haine se tend vers lui. Quelle bande se dresse, immense, agitant ses longs bras pâles. « Va-t'en rejoindre Ondine, chevalier, va-t'en vite. Les esprits des eaux se sont réveillés et ils ne te laisseront aucun répit. Cours vers ton château et ton épouse pendant qu'il en est encore temps. » Lorsque Hildebrand essaie de frapper le géant, il plonge son épée une fois encore dans une cascade aux murmures sinistres. Il reprend son chemin, menant à la main son cheval rétif. La tempête augmente. Entre deux bourrasques, il entend la voix de Bertalda qui l'appelle à l'aide. Il retrouve bientôt la jeune femme affolée par la nuit noire, l'orage et les ombres effroyables de la vallée. Sans perdre un instant, ils entament le difficile chemin du retour, noyés dans l'obscurité. Le vent ne permet pas d'allumer de lampe. Les fines chaussures de Bertalda ne se déchirent sur les pierres et le cheval refuse toujours de se laisser monter. Mais voilà qu'ils croisent, à leur grand soulagement, un meunier coiffé d'un large capuchon de lin beige, conduisant une charrette tirée par 2 chevaux blancs. Des sacs de farine s'empilent derrière lui. Le meunier s'arrête à la hauteur des 2 errants et leur propose de monter à côté de lui. Le jeune chevalier accepte et se serre contre sa compagne. L'homme est silencieux, au contraire de Hildebrand et Bertalda qui ne cessent de se parler, passant des reproches aux tendres confidences. Soudain, l'homme se met à hurler. « Oh là, les chevaux, où marchez-vous donc? Nous voilà dans le torrent !» De fait, ses chevaux et la monture d'Hildebrand avancent avec peine, luttant contre le flot qui dévale le chemin. En un instant, le niveau de l'eau atteint le poitrail des animaux. « Dételons les chevaux et remontons tout en haut du talus !» crie Hildebrand à l'oreille du conducteur. Lorsque celui-ci se retourne vers lui, il lui dévoile son visage livide et ses terribles yeux haineux. « Il ne m'a donc pas reconnu ?» Trop occupé par ta belle, chevalier ? Beaux amoureux, dites-vous adieu car voici venir le châtiment des eaux. » À mesure qu'il parle, Kelborn grandit devant les yeux terrifiés des jeunes gens. Dans un dernier rugissement de colère, il lève ses bras vers le ciel noir. Derrière lui, gonfle une vague immense dont l'écume semble atteindre la cime des arbres. Avec une clameur de fin du monde, l'eau noire commence à rouler vers eux.